Bonjour et bienvenue à tous pour ce 8e numéro de Présidence, votre émission politique sur les ondes de Transistor. Tous mes camarades sont là, Jérôme Bastic.
Bonjour à tous.
Antoine Jaya.
Bonjour.
Et Amos Reichmann.
Bonjour.
Et c'est une émission spéciale que nous vous proposons en ces vacances de Noël. Tout le monde se prépare à sabrer la dinde au marron et à découper le champagne. Moins que ça soit le contraire. Tout le monde finit d'emballer ses paquets avec des neuneux tout partout. Tout le monde écrit à l'avance les cartes de bonne année, car après le réveillon de la Saint-Sylvestre, tout le monde est toujours trop bourré pour faire quoi que ce soit d'autre. D'ailleurs, vous avez vu que la rentrée, c'est le 3 janvier cette année, c'est affolant. Tout le monde prépare déjà la poubelle ou vérifie son compte eBay pour se débarrasser des cadeaux pourris que l'oncle Charles va encore nous faire. Vous savez, cette sempiternelle ceinture, parce qu'un homme, ça doit avoir une belle ceinture, ou ce livre très intéressant sur la survie des gnous de Tanzanie. Tout le monde a au moins une fois dans sa vie ouvert un paquet cadeau, pensé « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» déglutit et dit d'un ton le moins faux possible « Oh, il fallait pas !» Non, mais c'est vrai. Bref, tout le monde a autre chose de mieux à faire que d'écouter une émission politique qui lui parle de rigueur, de crise de l'Europe, du nucléaire ou du triple A. À la limite, si on faisait un débat sur le régime le plus efficace, en invitant François Hollande et Roselyne Bachelot pour témoigner, là oui, on intéresserait les gens. Oui, vous avez vu Roselyne Bachelot ? Elle a tellement maigri qu'elle fait peur. Déjà avant, quand elle faisait la gueule, c'était pas beau à voir, mais maintenant c'est carrément interdit aux moins de 16 ans. Resident Evil et Shining peuvent aller se rhabiller. Non, mais c'est vrai, à Noël, les gens veulent de la joie, de la bonne humeur. D'ailleurs, toutes les chaînes de télé changent leur programme, sortent leurs bêtisiers, rediffusent pour la millième fois la grande vadrouille et les dessins animés d'Astérix, mettent Stéphane Bern ou Jean-Luc Reichmann en costume trois pièces. Elles s'adaptent à l'atmosphère ambiante. C'est vrai, quoi. Il faut quand même que nous soyons tous dans un autre état pour chanter à tue-tête « I wish you a Merry Christmas » ou pour supporter Mariah Carey qui chante « Ça dégouline de gnangnang, il y a même les petites clochettes et dans son clip, elle se la joue Mère Noël lubrique qu'elle fait à la cheminée. Mais ça ne choque personne. Même pas le fait qu'il y ait Justin Bieber dans son clip. Non, tout le monde applaudit, c'est l'esprit de Noël. Encore une fois ? Donc pour tous les auditeurs qui ne sont pas encore morts, on a décidé de s'adapter et de vous proposer une émission spéciale. Et au risque de vous décevoir, ce ne sera ni une compilation des meilleurs tubes de Mariah Carey, ni un débat autour du régime de nos dirigeants. Mais nous allons revenir à notre manière sur l'année politique qui vient de s'écouler. Car comme le dit Firmin van den Bosch dans ses aphorismes du temps présent, une année qui finit, c'est une pierre jetée au fond de la citerne des âges et qui retombe avec des résonances d'adieu. Oui, ça a plus de gueule que Mariah Carey quand même. Je vous propose donc une émission spéciale fin d'année de présidence pour revenir dans la bonne humeur sur les événements qui ont marqué la politique française en 2011. Se termine bientôt, retour sur l'année politique en France. 2011, ce fut d'abord l'année des célébrations ratées. Ce devait être l'année du Mexique en France, mais avec l'affaire Florence Cassé, les projets de manifestations culturelles sont restés dans leur carton. 2011, c'était l'année des Outre-mer français, et je pense que les gens en ont autant entendu parler qu'ils ont su que 2011 avait été déclaré par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement « Année internationale de la chauve-souris ». Incroyable, mais vrai. Oui, oui. Pour reprendre le titre d'une émission. Le plus incroyable dans l'histoire, c'est la sous-médiatisation de la célébration, non pas des chauves-souris, mais des Outre-mer. Oui, quoique, qui représente tout de même 2,6 millions de citoyens français répartis entre les 5 DROM, ça fait peur, Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte et Guyane, et les COM, que sont Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Wallis et Futuna ou la Polynésie française, à quoi il faut rajouter le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie. Alors certes, il y a eu des manifestations, Dès le mois de mars, le musée du Quai Branly a mis en valeur ses collections d'objets d'art des Caraïbes, de Mayotte, de Guyane ou encore de La Réunion. Pendant l'été, l'Orangerie a accueilli l'exposition OMA, Outre-mer art contemporain. Le musée de l'air du Bourget a mis en place depuis le 20 juin une exposition intitulée Par avion, destination Outre-mer, que l'on peut encore aller découvrir jusqu'au 31 décembre. Mais on est loin de l'ambition affichée par Daniel Maximin, commissaire de l'année des Outre-mer. Oui, ils ont même créé un poste pour ça. Et qui voulait éclairer la réalité des Outre-mer français au-delà des clichés sur les enfers des cyclones et des crises sociales ou du paradis des cocotiers. Le problème, c'est que ce qu'on retient de l'année de l'Outre-mer, c'est justement ça. La parution, d'une part, d'un timbre au paysage paradisiaque pour la départementalisation de Mayotte, et d'autre part, la crise sociale automnale qui a secoué et secoue encore l'île de l'archipel des Comores.
Tu l'as dit Thomas, cette année était celle des départements et des territoires d'outre-mer en France. Un flop total. Franchement, à part les ultramarins et encore, qui était au courant? Des états généraux du multilinguisme et de la francophonie dans les outre-mer se tiendra du 14 au 18 décembre à Cayenne. On verra le résultat, s'il y en a un. Sensibiliser et éveiller les consciences sur la réalité des problèmes et des enjeux de l'outre-mer en France, cela n'est certes pas une mince affaire, mais une affaire qui est rarement entreprise. En tout cas, dans les médias traditionnels. Tiens, par exemple, dans la rubrique « Le saviez-vous ?», quel territoire d'outre-mer est devenu département le 1er janvier dernier ?
Encore un jeu.
Mayotte. Et oui, Mayotte est désormais le 101e département français. Et ce, dans l'indifférence quasi générale. C'est dire le peu d'intérêt qu'a suscité Mayotte, alors même qu'il s'y est passé beaucoup de choses. Mayotte a été le théâtre de heurts violents ces temps-ci. Personne n'en parle. Comme pour la grève générale dans les Antilles, il y a de cela 3 ans, il faut attendre plusieurs semaines avant qu'on en entende parler. Et le jour où l'on vient à nous en parler, voici que c'est le chaos, l'apocalypse même qui nous est décrite. Alors asseyons-nous et revenons aux faits. Malgré les temporisations successives et en vertu de l'adhésion unanime du peuple mahorais, exprimée lors du dernier référendum du 29 mars 2009 avec plus de 95% des voix, la départementalisation de Mayotte a eu lieu, au départ sans problème. L'espoir de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active avait convaincu une grande part de la population que cela remédierait à la faiblesse de leur pouvoir d'achat. En effet, avec moins de 500 euros effectifs par mois, il est parfois difficile de boucler. Mais la crise économique, puis la crise sociale, puis enfin la crise politique a frappé l'île de plein fouet. Au cours de l'automne, d'importants mouvements de contestation contre l'augmentation du coût de la vie ont paralysé l'activité de l'île. Mayotte n'étant plus approvisionnée suite au mouvement de grève d'octobre 2011, les Mahorais doivent désormais s'approvisionner dans le reste de l'archipel des Comores au risque d'y produire une pénurie alimentaire. Dans cette affaire, le gouvernement français, tout comme la plupart des médias, ont mis beaucoup de temps à réagir, pensant qu'une politique de l'autruche permettrait de laisser passer la situation sans heurts. Le problème, c'est que cette politique l'a plutôt laissé s'envenimer. La secrétaire d'État à l'Outre-mer elle-même, Marie-Luce Panchard, a laissé l'île s'embraser sans intervenir immédiatement. À croire que la crise antillaise et l'antécédent Yves Jégo d'il y a 3 ans n'ont pas servi de leçon. À Mayotte, on se souvient sans doute encore des paroles pas très agréables de cette Guadeloupéenne lors de la polémique sur sa préférence affichée pour son île d'origine au détriment des autres collectivités d'outre-mer pour la répartition de l'enveloppe budgétaire. Je cite... Je n'ai envie de servir qu'une population. C'est la population guadeloupéenne. Et ça me ferait mal de voir cette manne financière quitter la Guadeloupe au bénéfice de la Guyane, au bénéfice de la Réunion, au bénéfice de la Martinique, etc. Il a donc fallu attendre que la négociation entre les chefs d'entreprise et les représentants des manifestants, le 7 octobre dernier, ait échoué, que les rues de Mamoudzou soient envahies par un cortège de plusieurs milliers de grévistes et que des élus du Conseil général de Mayotte soient physiquement pris à partie pour que le gouvernement commence à s'intéresser à la situation. Marie-Luce Panchard est venue s'exprimer devant les Mahorais vendredi 14 octobre. Elle a proposé plusieurs solutions qui n'ont pas convaincu un public qui l'a copieusement sifflé une fois le discours terminé. S'en est suivi une recrudescence de la violence dans l'île, durcissement du mouvement, magasins pris d'assaut, affrontements entre la police et les manifestants, qui ont fait un mort le 19 octobre. Il faut attendre début novembre pour que des crises interministérielles aient lieu et qu'un médiateur, Denis Robin, soit dépêché par le gouvernement pour reprendre les négociations et dénouer la crise, sans qu'on puisse aujourd'hui en voir les fruits. Depuis début décembre, les mouvements protestataires continuent et un préavis de grève générale a été déposé par l'intersyndicale pour le 19 décembre et après. Aujourd'hui, la situation de crise à Mayotte est devenue clairement politique. Fin novembre, Victorin Lurel, membre de l'équipe de François Hollande, a publié un communiqué assassin à propos de la convention de l'UMP sur la politique pour les collectivités d'outre-mer. Pour l'instant, l'UMP tente de minimiser, de sauver les meubles. Quoi qu'il en soit, la situation inquiétante de l'outre-mer, et en particulier de Mayotte, s'est clairement imposée comme l'invité surprise de la campagne présidentielle, pour le meilleur comme pour le pire.
En chaque fin d'année, les journaux et autres magazines ont l'habitude de publier des classements. L'homme ou la femme, le ou la plus aimé des Français, la femme la plus sexy, la femme la plus influente, etc. Alors nous aussi, nous allons mettre en lumière ceux qui ont marqué l'actualité politique en 2011, mais à notre manière. C'est la rubrique « La femme de l'année dont on se serait bien passé ».
Marine Le Pen n'existe pas. Marine, c'est un petit nom, une douceur, une sucrerie d'un père qui n'y voit pas très clair. À l'état civil de Neuilly-sur-Seine, le fief populaire qui a vu naître cet enfant du miracle, non car il faut bien préciser que Marine n'est pas une héroïne ch'ti du froid nord, une fille du grisou, non. Eh bien à Neuilly, on découvre que la bleue Marine s'appelle en fait Marion Anne Perrine Le Pen. Tour de magie, et ça fait Marine. Sacré rigolo dans cette famille. Dommage que les Le Pen n'aient pas fait carrière dans un cirque. Jean-Marie en curiosité borgne de la guerre d'Algérie, enchaînant les mauvaises blagues, tapotant les fesses d'une tripotée d'enfants, ce serait la terreur du Le Pen Magic Circus. La mère Le Pen, au milieu des tigres, flagellant les fauves en tenue de soubrette, avant de poser nue pour Tigrou Magazine. Ah, Pierrette Le Pen, seins nus, jambes écartées dans Playboy 1987. Les fronts de la nation sont encore en sueur. Et Marine, ah, oh, Marion, Anne, Perrine, c'est merveilleux qu'ils t'aient renommée Marine. On peut faire plein de super blagues. La France bleue marine, la marine nationale, les gars de la marine, Marine la coquine. Au cirque Le Pen, ce serait la magicienne fatale. Celle qui a réussi à faire passer 2011 d'année de l'outre-mer à année de la marine. La petite Le Pen l'a jouée fine, oxymore à l'appui, la sévère douceur, la violente tendresse. En 2007, Sarkozy devient président à droite, et que je te carchérise, et que la France est belle, et que les Arabes c'est un problème. Sarkozy ou le parfait stagiaire du Le Pen Magic Circus. La fille Le Pen, qui elle, pouvait profiter de ses deux yeux pour y voir, a choisi en 2011 de recentrer son discours. Marine qui se recentre, Sarkozy qui se droitise, ils se retrouvent l'un sur l'une ou l'une sur l'un. Au choix. L'avantage pour la Le Pen, c'est qu'elle a une chance sur deux de se retrouver au second tour en mai 2012. Sarkozy n'est plus le seul à occuper cet espace des limbes de la droite, de la saleté française qui suinte le racisme, qui a peur du noir et jouit de la silhouette élancée de Herr Géant, en s'esclaffant aux blagues auvergnates de Herr Brice Hortefeux. J'exagère. Pierrette Le Pen, fouettez-moi. Pardon, je suis allé trop loin. Car Marine ne fait pas que jouer sur la grasse bêtise française. La Le Pen 2011 joue sur la tragédie de la gauche, l'affront à son peuple. Ses oubliés de la mondialisation, ses perdants de la croissance, ses transparents du pays, galériens contemporains. Ils ont été délaissés par une gauche qui a pour seul horizon la terra nova des bobos des centres-villes. Marine Le Pen est une habile menteuse, fourbe de son état, magicienne aussi brillante que dangereuse. À ce peuple pour qui la politique est faite, elle tient le discours de l'empathie, de la compréhension. Dire qu'elle a grandi dans un château nostalgique de l'Ancien Régime. Et pourtant ça marche, tragiquement. Marine, qui marque 2011, s'est illustrée par une étrange accusation, celle de marinisme. Mélenchon, Montebourg, des hommes de gauche qui mettent la barre à gauche, qui parlent aux pauvres du pays, à cette multitude déprimée, prête à déferler sur la minorité des châteaux du jour, des politiques qui n'utilisent pas la détresse pour faire triompher le racisme, eh bien ils ont été accusés de marinisme. Parler au peuple, ce serait copier Le Pen. Voilà où l'on en est arrivé. Mais que la France ouvre les yeux. Marine n'est pas l'avocate de ceux qui sombrent. Son pays, c'est avant tout celui des Blancs-Becs, Maigret le Canard, l'OAS et Vichy. Marine Le Pen dit d'Eva Joly qu'elle est une sans-patrie fixe. Marine Le Pen dit que Julia n'est pas un prénom convenable pour une fille de président. Marine Le Pen, c'est le retour au franc, c'est le renvoi des immigrés, c'est le retour de la peine de mort, c'est la nécessité de choisir un pays pour les binationaux. Marine Le Pen, c'est la pire peine qu'on pourrait infliger à la France. Le 15 janvier 2011, elle devenait présidente du Front. En mars, elle était en tête dans les intentions de vote du premier tour. En 2011, la magicienne aux airs de sorcière a eu 43 ans. 43 ans. Encore loin de la ménopause. On est bon pour se taper son vomi encore une quinzaine d'années. Sa voix rauque, ses bras tendus comme des ailes déployées, des ailes de géant qui nous empêchent de respirer. Il y a quelques jours, on l'a privée de parole du côté de Dauphine. Des étudiants refusant qu'elle s'exprime dans le grand amphi de l'université, à l'instar d'autres hommes politiques. Eh bien, n'en déplaise à certains, les enfants de Dauphine méritent notre respect. Ils ont renvoyé la petite Marion Anne Perrine à ce qu'elle était, la fille d'un agitateur de rue, d'un mauvais clown, l'héritière d'un voyou de la Trinité-sur-Mer. En 2012, la gauche devra faire son travail, ne pas se tromper de discours. Si elle comprend le monde, elle arrachera un œil à la marine, rendant aveugle le parti de son père. Alors la triste famille sera remise à sa place. Sinon, c'est tout un pays qui risque de n'avoir plus que ses yeux pour pleurer le quinquennat du cirque. Le triomphe de Marie-Anne Perrine, la peine marine.
Merci Amos. Alors je vais demander un petit peu de sérieux. Dans le studio, vous allez comprendre pourquoi. Si Marine Le Pen a marqué la vie politique française, ce qui lui vaut le titre de femme de l'année dont on se serait bien passé, il y a des hommes et des femmes politiques dont on aurait souhaité qu'ils continuent de marquer la vie politique française et qui nous ont quittés en 2011. La fin d'année, c'est aussi le moment de leur rendre hommage. Alors je ne sais pas pourquoi, mais dans ce genre de situation, quand il s'agit de parler des morts et d'honorer leur mémoire, c'est toujours une musique classique que l'on met en fond sonore. On ne déroge pas à la règle, vous reconnaîtrez l'aria de Bach pour cette séquence, ceux qui nous ont quittés. Le 2 mai est mort Patrick Roy, l'homme au costume rouge de l'Assemblée nationale, député maire de Denain, fan de heavy metal qui avait annoncé en novembre 2010 qu'il souffrait d'un cancer du pancréas et qui était devenu une figure digne et courageuse de la lutte contre la maladie. C'est également un cancer qui a emporté le 15 septembre l'homme de la liberté des ondes, Georges Filliou, député de la 3e circonscription de la Drôme pendant 14 ans, ministre de la Communication de François Mitterrand sous les gouvernements Mauroy et Fabius. Un autre Georges, connu lui pour ses sorties racistes à répétition, maire de Montpellier pendant une trentaine d'années, président du conseil régional de Languedoc-Roussillon depuis 2004, Georges Frêche, est mort le 24 octobre. Il y a presque un mois, le 22 novembre, c'était une grande dame, une femme militante jusqu'au bout, défendant les Kurdes d'Irak comme les sans-papiers français, les indépendantistes sahraouis comme les Tibétains, qui restera la plus marquante des premières dames de France, Daniel Mitterrand, qui tirait sa révérence. Enfin, je voulais avoir une pensée pour un grand homme, rouge espagnol exilé, résistant en Bourgogne, déporté à Buchenwald, opposant communiste anti-franquiste après la guerre, ministre de la Culture du gouvernement de Felipe González de 1988 à 1991, grand écrivain, européen convaincu et militant, lui l'éternel apatride, Georges Semprin, qui est mort le 7 juin. Qu'a-t-il pensé ce jour-là? L'a-t-il reconnu, cette compagne vêtue de noir qu'il avait côtoyée de si près tout au long de sa vie? Dans l'écriture ou la vie, il disait « Je n'avais pas vraiment survécu à la mort, je ne l'avais pas évité, je n'y avais pas échappé. » Je l'avais parcouru plutôt, d'un bout à l'autre. J'en avais parcouru les chemins, m'y étais perdu et retrouvé, contrée immense où ruisselle l'absence. J'étais un revenant, en somme. C'était excitant d'imaginer que le fait de vieillir dorénavant, à compter de ce jour d'avril fabuleux, n'allait pas me rapprocher de la mort, mais bien au contraire m'en éloigner. Peut-être à la toute fin a-t-il revu les Terzberg, entendu le Kaddish et senti cette odeur âcre qui ne plane plus sur les forêts de Weimar où sont revenus les oiseaux. Dire merci, ce n'est pas assez, mais merci infiniment d'avoir bouleversé à jamais ma vie, Monsieur Georges Semprin. Avec Georges Semprin, c'est une certaine idée de l'Europe qui s'en est allée. Et ces derniers mois, en effet, on ne parle plus que de ça, de la crise de l'Europe et de la zone euro. Mais cela ne fait jamais qu'une crise de plus pour cette année 2011. Prenez un gros printemps arabe, une guerre en Libye, une bonne vieille crise financière, une crise européenne, rajoutez un peu de Fukushima, saupoudrez d'Afghanistan, n'oubliez pas votre bon vieux Iran, ou si jamais vous n'en avez plus dans vos placards, prenez son ersatz syrien, ça fait très bien le change. Laissez reposer, vous aurez ce que Libération, pour son hors-série de décembre, nomme une année de fièvre. Cette année, les hommes et femmes politiques françaises ont dû se mettre à l'heure internationale. 2011, une année de crise. Et au début de l'année, un homme se démenait pour tenter de régler la question de la crise financière, le patron du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn. Et ce n'est pourtant pas pour cette raison qu'il a marqué l'année 2011. C'est la rubrique « L'homme de l'année dont on se serait bien passé ».
Il a grise mine. On lui parle de la crise financière mondiale, mais, visiblement troublé, il semble ailleurs. Froissé, il dissimule avec peine une colère contenue, et l'on voit qu'il rumine de mauvaises pensées. « Oui, je vais vous parler de la crise, dit-il. Mais avant, je voudrais vous dire que j'ai assez peu apprécié les commentaires de votre humoriste. Les responsables politiques ont le droit, poursuit-il, et le devoir, sans doute, d'être critiqués. Mais l'humour, ce n'est pas drôle quand c'est principalement de la méchanceté. Oui, nous sommes revenus au 17 février 2009 au micro de France Inter, et Dominique Strauss-Kahn est ulcéré. Mais pourquoi l'un des hommes les plus puissants du monde éprouve-t-il une si grande colère? Il se trouve qu'un humoriste du nom de Stéphane Guillon vient de moquer la légèreté de mœurs du grand Manitou de l'économie française et mondiale en proposant, jingle d'alarme à l'appui, l'évacuation pure et simple de tout le personnel féminin d'Inter en cas de nécessité grave. C'est qu'il faut pas venir le chercher, le président de l'UFMI. Il a une campagne présidentielle à gagner, lui, dans 3 ans. Et puis la méchanceté gratuite, ça ne se fait pas, ça ne se dit pas. C'est vrai, c'est blessant et ce n'est pas drôle. La méchanceté gratuite, ce n'est pas drôle. Et pourtant, quand Stéphane Guillon a évoqué la possibilité de mettre une caméra sous la table où se trouverait DSK pour, je cite, « surveiller la bête », beaucoup de gens, moi y compris, ont manifesté une certaine hilarité. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Peut-être était-ce dû au contraste. Au contraste entre l'homme, si sérieux, avec ses cheveux blancs, ses dossiers d'économie, ses diplômes d'HEC et Sciences Po dans la poche, et la chronique complètement fantaisiste, évidemment, qui me faisait tout d'un coup imaginer, chose incroyable, un vieux lubrique libidineux et bossu, traînant tant bien que mal ses kilos, langue pendante, yeux injectés de sang, écume au coin des lèvres et verge turgescente, courant à la poursuite du personnel féminin d'une radio où, comme chacun sait, seule la voix se doit d'être belle. Mais non, ce n'était pas que cela, il y avait autre chose. Un doute existentiel s'empare de moi. Si je ris pour de la méchanceté gratuite, est-ce que ça veut dire que je suis méchant? Suis-je un sadique, un vicieux, un connard? Et si tout simplement j'avais ri parce que c'était drôle? Et si c'était drôle parce que précisément il ne s'agissait pas de méchanceté gratuite, mais d'un discours d'un humoriste se fondant sur des faits et ridiculisant une personne de pouvoir qui avait visiblement abusé du sien pour pécho sa subalterne? J'ai eu la réponse plus de 2 ans plus tard, chers auditeurs, comme vous. L'image de cet ancien proche communiste, puis ministre de Lionel Jospin, qui avait, avant l'affaire du Sofitel du 14 mai 2011, puis du Carlton toujours en cours, qui caracolait donc à 73% d'opinion favorable dans les sondages, fort de son image d'économiste austère et de son rayonnement international. Bref, l'image de cet ancien maire de Sarcelles a désormais fait place, et définitivement, à l'image du vieux pervers en peignoir léopard qui dit l'air de rien « Excusez la tenue, je sors de la douche ». Quelle déchéance ! Même l'image du très chic mot de « partie fine » ne peut plus cacher la réalité indubitable, le mot est approprié, de ces partouzes et autres orgies de fesses. Dominique Strauss-Kahn, l'homme de toutes les contradictions. Le serial lover a fait place au serial baiser, le prof d'écho à l'acteur porno, le presque maoïste est devenu quasi bayrouiste, et le président du FMI qui a, de par le monde, monnayé des prêts en échange de l'adoption d'une politique ultralibérale et du gel du salaire des fonctionnaires, a fait une carrière politique, oui, dans le même parti que Léon Blum. Avec DSK, l'impossible devient possible. Alors oui, on se serait bien passé de tout ça en 2011. Mais n'oublions pas tout de même de remercier Dominique Strauss-Kahn, on ne le fait jamais assez. Oui, remercions-le, car il nous a ramenés à la réalité. Je m'explique. Quand on manque autant de jugement pour ne pas se rendre compte qu'être le représentant de la gauche à la plus haute responsabilité politique française et passer son temps dans des hôtels de luxe à jouer à « Coucou, tu veux voir mon FMI ?» avec des prostituées déguisées en soubrettes et en se trompant en plus parfois, cela prouve qu'on a un petit problème de lucidité vis-à-vis de soi, d'égoïsme vis-à-vis de ses autres camarades socialistes et de profond mépris pour le peuple qu'on s'apprête à représenter. Bref, ça relève qu'on a une sorte d'ego surdimensionné, un ego de lion, roi des animaux de la savane, vautré à l'ombre pendant que les lionnes... Je vous passe les détails. Bref, ce manque de lucidité qui a précipité sa chute va peut-être calmer les ardeurs d'autres hommes politiques comme Hervé Morin, qui, sans l'accord de tout son parti et alors qu'il a le charisme d'une balle de ping-pong, se voit déjà président. La preuve, Éric Besson a annoncé qu'il allait quitter la politique pour diriger une équipe de football, sport dans lequel il excellera à mon humble avis car il a une déjà très longue expérience des transferts médiatiques. Félicitons-le, au moins lui, il a compris qu'il n'incarnait rien si ce n'est la suffisance et l'arrogance d'un arriviste trop médiocre pour être un héros balsacien. Et ça, c'est le déclic DSK qui l'a permis. Alors rendons à César, ou plutôt à Pompée en l'occurrence, ce qui lui appartient. Voilà, il avait Griezmann en 2009, il l'a aussi en 2011, mais pour d'autres raisons. Et depuis, Stéphane Guillon en a ulcéré un autre, qui vit sans doute rue du Faubourg Saint-Honoré. Et celui qui avait écrit la chronique d'une chute annoncée s'est fait virer. Et oui, ils agissent en despotes, ceux qui blâment le messager de la mauvaise nouvelle et non son responsable. Et les despotes ont souvent tort.
Mauvaise année pour Dominique Strauss-Kahn, donc, qui pourra se réjouir d'avoir le titre de d'homme de l'année, on s'en serait bien passé, et qui a pu se réjouir surtout, en tant qu'homme de gauche, on ne rigole pas dans le studio, du changement de majorité au Sénat, ce qui est en politique historique.
Coup de théâtre au palais du Luxembourg. Coup de tonnerre sur la vie politique française. Un de plus. Il est vrai que ce basculement du Sénat à gauche, en cette soirée pas si lointaine du 22 septembre 2011, a quelque chose d'historique, d'absolument inattendu, tellement on croyait que cette haute chambre, ancrée à droite, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, ad vitam aeternam. Le Sénat à gauche ? Ah, mais vous plaisantez, ma bonne dame, vous me faites bien rire. Le Sénat à gauche. Ce qui semblait hier encore un oxymore, pour les uns un idéal illusoire, impossible à atteindre, pour les autres, un cauchemar plus qu'improbable a bel et bien eu lieu. Le Sénat à gauche. Il faudra désormais s'habituer à cette nouvelle réalité et à compter avec. Faut dire, aussi loin que l'on remonte dans le temps, jamais le Sénat n'a eu une majorité absolue de gauche. On a beau parler de transition démocratique, d'alternance naturelle, c'est bien la première fois depuis l'avènement de la Ve République en 1958, c'est-à-dire depuis la refondation du Sénat sous sa forme actuelle, qui, il faut bien le reconnaître, ne lui laisse pas énormément de place, que la gauche a la majorité au Sénat. Et même lorsque l'on remonte encore auparavant, dans des temps antédiluviens, sous la 4e ou même la 3e République, on constate que la chose fut rare. Quel que soit le chef de l'État, y compris François Mitterrand, quelle que soit la situation gouvernementale, y compris en période de cohabitation, le Sénat est toujours resté à droite. On s'en souvient, la gauche criait à l'injustice représentative, dénonçant l'inéquité de cette chambre qui ne tirait pas sa souveraineté directement du peuple, qui surreprésentait les zones rurales selon un maillage obsolète datant d'une époque où la répartition démographique n'était pas du tout la même. La droite répondait fièrement que le Sénat n'a pas vocation à représenter des citoyens, contrairement aux députés, mais des territoires. Lionel Jospin, Premier ministre, excédé de se heurter sans cesse aux résistances non seulement d'un président pas toujours amène, mais aussi à celle d'un Sénat d'opposition, alla jusqu'à dénoncer le principe même du bicamérisme et à qualifier cette vénérable institution d'anomalie parmi les démocraties, en 1998. C'était un 21 avril. La droite fulminait. Mais c'était oublié qu'en son temps, le général de Gaulle lui-même, longtemps aux prises avec le radical Gaston Monnerville, président du Sénat, avait proposé par référendum la fusion de cette chambre haute avec le Conseil économique et social. Mais tout cela est révolu. Lorsque le jour de gloire est arrivé, en ce 22 septembre, c'est victoire que le peuple de gauche a crié. En fait, surtout les élus de gauche, hein, pas trop le peuple, car c'est peu dire que ce scrutin sénatorial indirect n'a pas vraiment soulevé les foules. La majorité présidentielle, devenue minorité sénatoriale, toute déconfite, expliquait que c'était un résultat purement arithmétique, uniquement dû aux élections locales antérieures, en particulier les municipales de 2008, mauvais cru pour la droite, donc un résultat totalement prévisible. alors qu'elle disait quelques jours plus tôt qu'elle était à peu près certaine de l'emporter. Méthode couée ou hypocrisie? C'est une évidence que le résultat de ce scrutin est arithmétique, mais pas seulement. C'est un mouvement de fond qui s'est fait alors sentir, sur fond de dissension au sein des fédérations locales de l'UMP, et surtout de l'exaspération d'un grand nombre d'élus locaux. La crise, de quoi vous retourner un bon vieux maire d'hiver droite. C'est Jean-Pierre Bel, sénateur de l'Ariège, président du groupe socialiste au Sénat, qui a pris la présidence de cette institution, le plateau pour les intimes, et cédé sa place à François Rebsamen, sénateur socialiste de la Côte d'Or. C'est donc lui le deuxième personnage de l'État français, lui qui pourrait remplacer le président de la République en cas d'intérim. Cela s'est déjà vu. Alors me direz-vous un Sénat à gauche? Ça change quoi? Ben pas grand-chose, hein, à vrai dire. Certes, ce soir-là, François Hollande et Martine Aubry, tous deux encore candidats à la primaire socialiste, s'étaient précipités dans ce palais du Luxembourg, qu'ils ne fréquentaient pourtant guère, attendant sans doute que cette intervention leur donne quelques mannes électorales et assurant, sourire aux lèvres, que rien ne serait désormais plus comme avant. Mais depuis, comment la Chambre haute vit-elle cette transition démocratique? S'il est indéniable qu'il s'agit évidemment plus d'une révolution de palais que d'un séisme populaire, comme on en voit sur d'autres rivages, il serait faux de dire qu'il ne s'est absolument rien passé. La gauche veut clairement faire du Sénat un laboratoire d'idées et surtout une vitrine alléchante de la politique qu'elle mènerait si elle reprenait les manettes de l'État. Du coup, envoler les grandes réformes sarkozystes de ce quinquennat, provisoirement enterrer la règle d'or sur l'équilibre budgétaire dont l'inscription dans la Constitution devait être un emblème de notre volonté nationale de désendettement. Détricoter, amender, renvoyer à l'Assemblée nationale la prose législative émanant de la droite, laquelle, n'étant déjà plus chez elle au Sénat, et se voyant en plus infligée à l'Assemblée des secondes lectures à n'en plus finir, crie à l'instrumentalisation électorale et à l'obstruction. Vous savez, ce gros mot parlementaire qui veut dire qu'on ralentit les procédures. Cette semaine, la gauche propose le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est-à-dire pour la première fois la distinction entre nationalité française et citoyenneté française. Une proposition qui sera évidemment rejetée à l'Assemblée. Bref, une alternance inefficace? Une alternance sans lendemain? Réponse le 6 mai prochain.
La victoire de la gauche au sénatorial, voilà un événement qui a marqué le paysage politique français. En revanche, il y a tout un tas d'événements qui se sont produits en France, en politique, durant l'année 2011, et que l'on a tout de suite oublié. C'est la rubrique « Ça s'est passé en 2011 et tout le monde s'en moque ». Le 29 mai, le secrétaire d'État chargé de la fonction publique, Georges Tron, a démissionné après une affaire de harcèlement et de réflexologie plantaire érotique. Ça s'est passé en 2011 et tout le monde s'en moque. Le 6 juin, le Parlement enterrait définitivement le bouclier fiscal que le gouvernement traînait comme un boulet depuis 4 ans, mais a aussitôt adopté un allègement de l'impôt sur la fortune. Ça s'est passé en 2011 et tout le monde s'en moque vu que cela ne change pas grand-chose. En juillet, 36 sangliers sont retrouvés morts sur une plage des Côtes d'Armor. Les principales suspectes sont les algues vertes qui se nourrissent de l'azote agricole et dégagent un gaz toxique lors de leur putréfaction. Le volet préventif du plan de lutte contre les algues vertes, initié par le gouvernement en février 2010, tarde à se mettre en place. Ça s'est passé en 2011, tout le monde s'en moque, hélas. En novembre, Ramayad a inventé un nouveau concept en politique, le livre photocopié. En effet, ce sont plus de 15 plagiats avérés qui ont été révélés dans la presse et médiatisés par le Petit Journal sur Canal+, pour le livre de l'ancienne secrétaire d'État aux droits de l'homme, plaidoyer pour une instruction publique. Face aux critiques, la première vice-présidente du Parti radical se défend, elle évoque des « citations libres ». Ça s'est passé en 2011 et tout le monde s'en moque. Mais surtout, le 4 octobre, Corinne Lepage annonçait sa candidature à l'élection présidentielle. Ça s'est passé en 2011 et ça, tout le monde a raison de s'en moquer. Qui dit émission de fin d'année dit bêtisier. Donc nous vous avons concocté un bêtisier spécial déclaration des hommes et femmes politiques. Chaque année, le Presse Club publie un prix humour et politique et le grand prix a été décerné en 2011, cette année, à Laurent Fabius pour cette phrase « Mitterrand est aujourd'hui adulé, mais il a été l'homme le plus détesté de France », ce qui laisse pas mal d'espoir pour beaucoup d'entre nous. Pas mal, en effet. Mais d'autres auraient mérité d'être décorés. à nous de vous proposer les phrases qui nous ont fait le plus rire cette année. Dans la catégorie autodérision, j'ai nommé Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, pour sa déclaration « Je ne serai peut-être pas élue présidente de la République, mais je ne serai pas la seule ». On la connaît peu, cette Nathalie Arthaud, mais une chose est sûre, elle ne manque pas de lucidité. Dans la catégorie plus inculte que Sarkozy, le gagnant est Frédéric Lefebvre, à qui l'on demandait quel était son livre de chevet et qui a répondu « Zadig et Voltaire, n'essayez pas de le demander à votre libraire, ça n'existe pas hein. ». Dans la catégorie « un peu rageur sur les bords », j'ai nommé Guillaume Bachelet, secrétaire national à l'industrie du Parti Socialiste, qui, parlant de Ségolène Royal, a déclaré « Qu'on commette des erreurs en politique, c'est possible. Qu'on les commette toutes, c'est fou. » Il faudrait lui dire à Guillaume Bachelet que ce n'est pas très charitable de tirer sur une ambulance qui a les quatre pneus crevés. Si on demandait au Parti Socialiste d'organiser les prochains Jeux Olympiques, le lancer de javelot sur Ségo ferait son entrée parmi les épreuves en athlétisme, c'est sûr. Et ce serait bien la première fois que nous verrions des éléphants viser juste. Dans la catégorie « Joli chiasme, petit jeu de mots rabucho » est nommé Gabriel Cohn-Bendit, le frère de Daniel Cohn-Bendit, qui a déclaré « Les verts sont capables du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'ils sont les meilleurs ». Dans la catégorie « J'invente de nouvelles expressions », le vainqueur est François Chérec. Laurent Wauquiez, on ne l'entend plus, il est en dessous de la moquette. Il est en dessous de la moquette. Alors là, j'avoue, je ne comprends pas. Je connaissais « Fumer la moquette » ou encore « Avoir plus de vie que moquette », spéciale dédicace aux gens du Nord. Mais être en dessous de la moquette, ça, non. Je trouve que ça fait un peu vieux trip sadomasochiste sur les bords. Et je profite donc de l'antenne pour lancer un appel solennel. D'abord à la famille de François Chérec. Occupez-vous de lui, il va mal. Ensuite, à vous, chers auditeurs, si vous connaissez cette expression ou si vous la comprenez, déjà c'est inquiétant. Mais avant de vous gaver de Dragonal, envoyez-nous un mail pour nous expliquer, ça serait gentil. François Chérec, on pense à toi. Saint-Maclou, priez pour lui. Enfin, nous décernons le grand prix présidence de l'humour politique à suspense, roulement de tambour. Jérôme, est-ce que tu peux nous faire le bruit du jingle de basse? Tu le fais si bien. Le grand prix présidence de l'humour politique est décerné à... Là, c'est le moment où une pouffe siliconée n'arrive pas à ouvrir l'enveloppe qui contient le nom du gagnant. Alors, qui se dévoue autour de la table pour faire la pouffe siliconée qui n'arrive pas à ouvrir l'enveloppe alors que de toute façon, il n'y a pas d'enveloppe?
On peut le faire tous ensemble.
Allez. Bon, l'instant est solennel. Le grand prix présidence de l'humour politique est donc décerné à François Baroin. C'était donc Amos, la pouffe siliconée. Pour cette phrase... Michel Alliot-Marie conserve toute sa légitimité à Saint-Jean-de-Luz. C'était le bêtisier de Noël. Cette émission spéciale Noël touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avions pris à la préparer. Merci à Jocelyn et à Xavier en régie pour la technique. Et nous vous souhaitons à tous de belles fêtes de fin d'année et que vous les passiez avec ceux qui vous sont proches. Un gros bisou à tous ceux qui sont à l'étranger et qui passeront des fêtes un peu déracinées. Spéciale dédicace à une Caroline sous la neige d'Ottawa. Au moment d'ouvrir vos paquets, rappelez-vous juste 30 secondes qu'il y a des gens qui passent Noël seuls ou qui n'ont pas les moyens de s'offrir et d'offrir à leurs enfants un Noël digne de ce nom. Juste une petite pensée, cela ne fait pas de mal et cela sauve de l'égoïsme. Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles émissions. Et en attendant, vous pouvez réécouter tous les numéros de présidence, Mazette, pour vous réchauffer pendant les longues soirées d'hiver. Et pour suivre l'actualité de votre émission préférée, vous pouvez toujours ajouter présidence parmi vos amis sur Facebook. On compte sur vous pour dépasser le chiffre des 5000 visiteurs uniques sur notre site. Alors profitez des fêtes pour parler à votre famille et à vos amis de Transistor. Ce serait pour toute la rédaction de Transistor un très beau cadeau de Noël. Encore une fois, nous vous souhaitons un
joyeux Noël.
Et même au pied du sapin, surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.